Adrien retourne à son bureau en pensant à toutes ces choses.
Le téléphone sonne. Il a pris l'appareil. Oui ?
Monsieur l'enfant, désirons parler.
Bien, faites-le entrer.
On frappe à la porte. Il voit sur l'écran de contrôle que c'est l'enfant. Il appuie sur le bouton pour faire ouvrir. La porte s'ouvre. C'est l'enfant. Vous désirez me voir, monsieur l'enfant ? Oui, monsieur. Venez vous asseoir.
Je vous écoute.
L'enfant lui dit, c'est au sujet de ce que vous a proposé le ministre de la Justice.
Galien lui dit, j'ai refusé cette chose.
L'enfant lui dit, il faudrait peut-être réfléchir.
Galien lui répond, c'est tout réfléchi. C'est un truc pour se faire de la pub et de l'argent. Se servir de la justice, des peines, de la misère humaine pour s'enrichir, c'est une honte.
Et il veut dire qu'il fait ça pour réparer les erreurs judiciaires. En réalité, c'est un truc pour audimat et porte. C'est une honte. La justice au service de l'audimat télé, comme pour le foot, avec arrêt pub. Et tout ça pour remplir les caisses des annonceurs de la télé et du ministère. Je suis sûr qu'ils vont recevoir plus d'argent que la famille, que les familles, pour les dommages qu'elles ont eus.
L'enfant lui dit, et nous aussi, si nous acceptons, nous recevrons une bonne somme et une sacrée pub. Nous devons penser à notre groupe. L'argent, nous en avons besoin seulement avec le projet Continent qui nous coûte très cher.
Gaïen lui dit, d'après vous, il faut faire taire l'honneur et la dignité pour se remplir les caisses. Nos caisses.
L'enfant lui dit, c'est pas avec de la morale que l'on fait des affaires.
Gaïen lui dit, je ne peux accepter ce genre de choses.
L'enfant lui dit, un chef de groupe doit penser à ses affaires avant tout. Il ne doit pas oublier que si elles ne marchent pas, eh bien, il risque de mettre des millions de personnes au chômage. Ce n'est pas moral, ça non plus. Et le PDG est responsable que d'une seule chose, de ses affaires. Et si c'est son devoir moral qu'elle marche pour ses employés, le reste ne le regarde pas. Ce n'est pas son rôle de prendre les fautes et faits et gestes des autres ou de ses clients. S'ils ne sont pas moraux, cela ne le regarde pas. Lui, sa morale, c'est son entreprise, qu'elle marche pour éviter le chômage à ses employés. C'est tout. Le reste, chacun à Dieu et à la justice. Justement.
Galien lui dit, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La moralité fait partie de nos obligations, et pas que pour payer nos créanciers.
L'enfant lui dit, je comprends ce que vous voulez dire, mais dans ce cas précis, l'État commande et nous demande de l'aider.
Et si l'État est un État, disons, dictatorial, nous sommes obligés d'aider à faire sa politique ? Serions-nous obligés de l'aider en nous pour ouvrir des camps de concentration ?
L'enfant lui dit, vous allez un peu loin. Il nous demande simplement de remettre en route des cerveaux pour qu'on puisse refaire des jugements. C'est de la justice.
Galien lui dit, à Audimat pour TF1 ou autre.
Ceci ne nous regarde pas. Nous devons le faire. L'État a besoin d'ordinateurs et si nous l'aidons, nous aurons le marché.
Galien lui dit, bien, admettons. Faites ce que vous voulez. Voici la liste. Affaires. Les cerveaux et faites payer le prix fort. Ils ont les moyens, entre TF1 et les portes. Se met en route. D'Amfort donne à Ricain la liste des cerveaux à retrouver et essayer de remettre en service. Ricain regarde la liste et lui dit :
ils sont complètement fous, même Landru. Ce sont des imbéciles ceux qui ont fait cette liste. Il y a peut-être 2-3 cerveaux qui peuvent être récupérés, mais le reste est parti en poussière. Bon, allons-y.
Pendant qu'ils se mettent en route, le ministre de la Justice convoque les journalistes et leur dit qu'une grande première va avoir lieu. Pour plus de justice, nous allons faire revivre les cerveaux des grands criminels, et ceci grâce au groupe Jeune Tout, pour leur refaire leur procès et voir s'il n'y a pas eu des erreurs judiciaires. Et s'il y en a eu, ces personnes, ou plutôt ces héritiers, seront indemnisés. La télévision TF1 convoque les journalistes et leur dit :
les procès seront diffusés en direct et en intégralité sur notre chaîne. Nous aussi, nous faisons du service public.
Une bande-annonce passe sur la chaîne qui dit :
pour la première fois, des morts vont pouvoir se défendre dans un procès.
Chacun et son équipe recherchent ses cerveaux. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils essayent de voir ce qu'ils peuvent en faire. La plupart du temps, c'est inutilisable. Le cerveau s'est volatilisé de la boîte crânienne. Aux sucres qui ont été conservés dans des liquides se sont séchés. Donc, inutilisable. Mais ils ont trouvé tout de même des cerveaux utilisables. Une vieille dame de famille qui aura empoisonné 25 personnes. Celle qui est miraculeusement gardé du docteur Petiot, le fameux docteur, celui d'un jeune homme qui aurait tué des enfants, celui d'un membre armé pour l'Algérie française. On nettoie tous ses cerveaux, on enlève toute la pourriture, on garde ce qui est bon. On prend l'ADN pour faire l'ordinateur. Une fois que le cerveau est nettoyé et l'ordinateur prêt à fonctionner, on connecte les deux et on bombarde le cerveau de rayons pour le réveiller. Bon, je vous ai déjà expliqué tout ça. Une fois que les cerveaux ordinateurs sont prêts, ont retrouvé mémoire, peuvent dialoguer, on les envoie directement au palais de justice, dans une pièce spéciale où ils seront interrogés avant le jugement par le procureur. Le procureur, avec un huissier, passe à l'interrogatoire des cerveaux et l'huissier tape les réponses. Nom, âge, profession. Vous êtes accusé de... Vous avez été guillotiné tel jour et on va vous refaire votre procès, etc. Êtes-vous coupable ou non coupable? Tous disent non coupable. Puis, avant le procès, on recherche les témoins, s'il en reste, et on relit le procès. On leur trouve à chacun un avocat de la défense. Maintenant, avant d'ouvrir le procès, il reste à savoir ce que l'on va faire des cerveaux. S'ils sont innocentés, on les donnera à la famille. Mais s'ils n'ont pas de famille, ils seront mis en maison de retraite aux frais de l'État. Et s'ils sont coupables, on les débranchera et les brûlera avec leur ADN. Les procès commencent, un à un. L'on met l'ordinateur, cerveau, dans le box des accusés avec un homme qui tape les questions-réponses sur l'ordinateur pour qu'il puisse répondre. Les caméras de télévision sont là. Tout est prêt. Pour la première fois au monde, l'on juge des gens qui sont déjà morts.
Madame, toutes mes excuses. Voyons. Garde. T'as vu, Barrier, t'es chiqué.
Le procès est présenté à la télévision.
Elle s'y va. Elle est fort. La pauvre s'est à moitié évanouie dans les couloirs.
Allez, en piste.
En direct et en intégrale. C'est long. Et il ne se passe pas grand-chose. Les gens attendent la pub pour se distraire et pour rigoler un peu.
Monsieur Lacour. L'audience est ouverte. Vos noms, prénoms, âge et profession. Monsieur Lacour. L'audience est ouverte. Vos noms, prénoms, âge et profession. Bon, asseyez-vous. Monsieur le préfet, veuillez procéder à l'appel des noms de mesdames et messieurs les jurés.
Vidal.
Présent.
Répondez seulement présent.
Bravo.
Monsieur Perrier.
Présent.
Angèle.
Présent.
Madame Miro.
Présent.
Monsieur Verdier.
Présent.
Monsieur Buisson.
Présent.
Quel mébouille, il y en a encore pour une heure.
Monsieur Godin.
Attendre, toujours attendre. Puis ce matin, je vis sur les nerfs.
Bah, tirez pas trop dessus quand même. On en aurait besoin tout à l'heure.
Drapier.
Présent.
Madame Bompard.
Présent.
Monsieur Hubert.
Présent.
Monsieur Moineau.
Présent.
Monsieur Papin.
Présent.
Madame Souplet.
Présent.
Monsieur Perrin.
Présent.
Monsieur Berry.
Présent.
Madame Gallon.
Présent.
Procédez au tirage au sort de messieurs les jurés. Premier juré, monsieur Verdier, numéro 7.
Ballon, numéro 7. Monsieur Drapier, numéro 17. Monsieur Godin, numéro 11. Monsieur Buisson, numéro 8. Monsieur Gaillard, numéro 9. Monsieur Moineau, numéro 21. Madame Tardy, numéro 12.
Accusé.
Madame Gallon, numéro 23.
Récusé.
Monsieur Magui, numéro 20. Vous êtes jeune.
Vidal numéro 1.
Oui. Et Parvier n'est pas donnant. Avec lui, ça peut faire perpète.
Ou pire, on s'en fout. Ça, c'est pour demain. Embêtant, c'est l'édition d'aujourd'hui.
Pour ceux qui désirent assister à l'audience, il y a un banc réservé, là. Messieurs les jurés, veuillez vous lever. Je vais donner lecture de la formule du serment. Le jury est promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Marceau Dominique. De ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse. De ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, ni l'affection. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction. Avec l'impassibilité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre. Et de conserver le secret de vos délibérations, même après la cessation de vos fonctions.
Accusés, soyez attentifs aux charges qui ont été relevées contre vous. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'arrêt de renvoi. Lecture de l'arrêt de renvoi.
Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, réunion au centre du conseil, le 15 octobre 1950, vu la procédure inscrite au tribunal de grande instance de Paris contre Marceau Dominique, né le 22 octobre 1939 à Rennes.
Avec une fille comme...
Il y a eu 3 acquittements pour insuffisance de preuves. Les cerveaux ont été rendus à leur famille. 1 acquittement pour innocence. Et 5 ont été reconnus coupables, dont Petiot, qui pourtant a été admirable. Et c'est le seul qui a vraiment passionné le public, parce que c'est lui qui a fait le plus d'audimat. Les Partes, qui posteriorisait la chose, a décidé, c'est de le garder, le mettre dans le musée de Pantes, au château en Italie. Les autres ont été détruits. Le groupe Jeune Tout a été félicité et a reçu une bonne somme de l'État, des télévisions et des Partes. Pour cette opération, on veut lui offrir le prix Nobel de la paix. Galien est retourné au château. Pour amener Guillaume. Il lui a dit que c'était mieux pour lui. Tu peux être recherché par ceux à qui tu devais de l'argent et des tueurs. Alors Guillaume est reparti. Ce château, ce grand château tout seul, dans ce parc hors du monde. Un après-midi, il se promène dans le bois qui est à tous côtés de la propriété. Le ciel est bleu, mais ça sent l'hiver. Les feuilles commencent déjà à tomber. Le soleil est moins chaud. Guillaume est mélancolique et se dit qu'il va passer encore un hiver tout seul ici. Bien sûr, Galien viendra le voir une fois par semaine, mais c'est tout. Surtout qu'il est encore jeune, vigoureux, et qu'un rapport par semaine, c'est très peu. Il passe toutes ses nuits dans son lit à essayer de trouver le sommeil en se masturbant. À un tournant du chemin, voit qui est assis sur un tronc d'arbre un jeune enfant dans les 12 ans, à peu près. Il est mince, blond, habillé simplement d'un pantalon velours marron et d'un pull gris. Il a un livre à la main. Guillaume passe devant lui et voit qu'il a un très joli visage, fin, avec de grands yeux bleus, un petit nez, une bouche un peu bulleuse et des cheveux qui ondulent légèrement. Guillaume, pour le regarder, s'est arrêté. L'enfant continue à lire, lève la tête et voit Guillaume. Guillaume lui dit « Bonjour ». L'enfant lui dit « Bonjour ». Guillaume lui demande « Tu es d'ici ?» L'enfant lui dit « Oui, mon père est le fermier de la ferme qui est à la lisière du bois là-bas. Et vous, vous êtes du château ?» Guillaume lui demande « Comment le sais-tu ?» Le garçon lui dit « Tout le monde vous connaît dans le coin. Vous êtes le Parisien qui habite le château. » Guillaume lui dit « Je m'appelle Guillaume. Et toi ?» Le garçon lui dit « Moi, c'est Gilles Bouquin. Et qu'est-ce que tu fais, Gilles ? Vous voyez en ce moment je lis. Et que lis-tu ? Des poèmes de Rimbaud. Tu es un peu jeune pour lire ce genre de lecture. » Gilles hausse ses épaules et lui dit « Rimbaud avait presque mon âge lorsqu'il a écrit certaines pièces. Et puis, je n'ai pas beaucoup de livres à la maison. Les livres coûtent cher. » Guillaume lui dit « Si tu veux, je peux t'en prêter. Il y en a plein au château. »« Merci, je veux bien. » Guillaume s'approche de l'enfant. « Tu vas où à l'école ?» Gilles lui répond « Dans le village, il n'y en a plus. Alors je vais à la ville voisine. Et la plupart du temps, l'école est fermée à cause des grèves. » Les professeurs ne sont plus payés. On nous dit que l'on doit étudier à la maison avec un ordinateur. Mais ça coûte cher. Et où le mettre? Ça prend de la place. Guillaume lui dit, ceux qui nous gouvernent ne connaissent pas la vie. Un petit vent frais vient de se lever et on le sent sous les vêtements. Guillaume dit, si tu veux, on va au château, il fera plus chaud. Oui. Et il se lève et vont vers le château. Gilles demande, qu'est-ce que vous faites au château? Je me repose parce que j'ai été très malade. La grippe? Non, le corps et la tête. J'ai eu un grave accident et on m'a fait des opérations très difficiles. Alors maintenant, je suis un peu fragile. Gilles lui dit, ma mère est morte d'une opération. Elle n'a pas supporté. Guillaume lui dit, je suis désolé. Gilles lui dit, oh, il paraît qu'elle n'a pas souffert. Elle est morte en dormant. On l'opérait du corps. Elle ne s'est pas réveillée. Il y a longtemps de ça? Gilles lui répond, j'étais tout petit. Je ne l'ai pas connue. Et tu vis avec ton père? Oui. Nous deux, on s'entend bien. Sauf lorsqu'il a bu. Là, il ne sait pas ce qu'il fait. Il parle même à l'âne et veut le faire rentrer dans la cuisine. Tu n'as pas peur? Non, j'ai l'habitude. Et puis avec moi, il est gentil. Il n'est pas méchant. Ils arrivent au château. Je lui dis, qu'est-ce que c'est grand? C'est très grand et trop grand pour une personne seule. Tu veux visiter? Oui, je veux bien. Elle lui fait visiter le château. Gilles est surpris, est émerveillé par toutes ces choses. À le voir de l'extérieur, on ne dirait pas qu'il est comme ça, aussi beau. Tout ça, c'est à vous? Non, le château appartient à un ami. Puis, Guillaume le mène au salon pour faire goûter.
Tiens, entre. Va t'asseoir là. Il s'assoit. Guillaume appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. On frappe à la porte. Entrez. C'est le domestique. Vous apporterez deux bons goûters bien complets. Bien, monsieur. Et le domestique s'éloigne. D'heure plus tard, entrez, c'est le domestique qui apporte le goûter, chocolat et tout ce qu'il faut. Il dépose sur la table basse.
Guillaume lui dit, « Laissez, je servirai. »
« Bien, monsieur. » Et le domestique sort de la pièce. Guillaume demande,
« Thé, café, chocolat ?»
Gilles lui répond, « Un chocolat bien sucré. » Guillaume le sert.
Et s'en sert un lui aussi. Tu peux prendre de la confiture si tu veux.
Oui.
Et ils se font des tartines de confiture avec du pain grillé. Gilles lui demande, « Comment faites-vous pour avoir tout ça ?»«
Je ne sais pas. C'est mon ami qui me l'offre. »
Il doit être très riche, votre ami.
« Oh oui, c'est le président du groupe Genetou. Tu sais, les ordinateurs ?»«
Les ordinateurs, la biotechnique. »
Et on voit qu'il mange avec appétit.
« Tu as faim ?»«
Oui. » J'ai pas mangé depuis ce matin.
Guillaume trouve l'enfant gentil. Il est attiré par lui. Il trouve qu'il a un visage d'une très grande beauté et ses jolis cheveux blonds dorés qui ondulent légèrement.
Présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Immami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.